France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives et des solutions. Les carnets de campagne, tous les jours, donnent la parole à celles et ceux qui s'engagent pour le bien commun. C'est le Tarn-et-Garonne qui est à l'honneur cette semaine, puisque le jeu des 1000 euros est à l'Abbastide Saint-Pierre. Et aujourd'hui, je passe un coup de fil à une librairie. Le Tracteur Savant à Saint-Antonin-Nobleval. La libraire craint de voir sa commune devenir un village-musée qui s'anime uniquement en été. Elle rappelle à quel point il est important de choisir les librairies indépendantes pour acheter des bouquins. Et avant cela, la parole est à une fondation que vous connaissez bien, sauf qu'elle a changé de nom. Et ce n'est pas une mince affaire quand on dépend de la générosité du grand public. La Fondation Abbé Pierre est devenue la Fondation pour le logement des défavorisés. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct sur France Inter, délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés. Alors vous avez donc décidé, suite aux nombreuses accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre, de changer de nom mais aussi de logo, car le visage de votre fondateur apparaissait sur le visuel de la Fondation. Désormais, votre logo est un point d'exclamation avec une maison à la place du point. Cette décision a-t-elle été difficile à prendre ?
Bah oui, évidemment, puisque l'abbé Pierre a marqué notre histoire. Je crois qu'il a marqué aussi notre pays. Voilà, puis il y a eu ce premier témoignage, la volonté de la Fondation et du mouvement Emmaüs de creuser, d'ouvrir une cellule d'écoute qui a été gérée par un organisme spécialisé dans les violences sexuelles. Et puis on a découvert toutes ces graves agissements de l'abbé Pierre. Et donc, nous, notre combat contre le mal logement... Il s'impose, les besoins sont considérables, les associations ont besoin de notre soutien, les mal logés ont besoin de notre soutien. Et donc, par respect pour les victimes, pour les personnes, les bénévoles, les salariés, les militants contre le mal logement, et puis pour garantir notre action au quotidien, eh bien, nous avons pensé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, c'est une décision difficile, mais voilà, la Fondation Abbé Pierre change de nom, elle ne change pas de combat, et on est très motivés pour... apporter le soutien, la main tendue aux personnes les plus fragiles dans notre pays.
Les accusations visant l'abbé Pierre ont eu des répercussions sur les dons pour votre fondation. Quelle est l'ampleur de ces répercussions ?
Oui, ces répercussions sont importantes. Vous savez, la fondation a 97% ses ressources sont issues du don, de la générosité publique. Donc ça nous permet de financer 800 actions de lutte contre les exclusions, contre le mal logement, en direct, de nous-mêmes, ou portées par 500 associations de réseaux partenaires. Et en fait, la partie des dons issus de la collecte, chaque année, la collecte de donateurs particuliers, a baissé de 30%. Et on comprend bien, parce que ça bouscule, parce que voilà, l'abbé Pierre, c'était pas n'importe qui, et ça ternit un peu à un moment, dans ce moment de crise, cette image, en quelque sorte. Et on espère que avec ce changement de nom, et en rappelant les nécessités qui s'imposent pour les personnes les plus fragiles et le fait que nous, on veut être à leur côté pour les aider, eh bien, ça repartira à la hausse. Et je crois sincèrement que ça sera le cas, mais c'est vrai que ça a beaucoup bousculé. Comme ça nous a beaucoup bousculé, ça a beaucoup bousculé une partie de nos donateurs.
Justement, qu'avez-vous à dire aujourd'hui à ceux et celles qui ont arrêté de vous donner au moment où cette affaire a été révélée ?
Bah, qu'on les comprend, que je les comprends, parce que à un moment, par exemple, on a eu beaucoup de messages de donateurs qui nous soutiennent, qui nous disent bah faut que l'action de la fondation puisse continuer, qu'elle puisse, grâce à cette générosité, maintenir sa liberté de parole et d'action aussi. Alors il y a beaucoup de donateurs qui nous ont dit bah nous on attend justement que vous changiez de nom, que vous nous disiez ce que vous allez faire. Alors voilà, on a annoncé ce changement de nom aujourd'hui, mais on a surtout besoin de rappeler que pendant même ce moment très difficile pour nous, je crois pour la France aussi, vu l'importance de l'abbé Pierre, que les bénévoles, les salariés, les associations, les mal logés eux-mêmes n'ont pas cessé d'agir pour apporter des réponses à ceux qui sont en souffrance. Et puis rappeler aussi l'urgence de la situation, vous savez... Il y a plus de 4 millions de personnes mal logées dans notre pays, dont 350 000 personnes sans domicile. Et en fait, ces chiffres ne sont pas bons parce qu'ils augmentent. Vous voyez ce que je veux dire? Si encore on était en train de réduire la souffrance des personnes mal logées, et en fait, ce chiffre de 350 000 personnes sans domicile, il a augmenté de 140% depuis 2012. Et chaque soir, il y a plusieurs milliers de personnes, dont 2000 enfants, qui appellent le numéro de 115 pour être... trouver une solution parce qu'ils sont à la rue et qu'ils ne se voient proposer aucune solution parce que le secteur de l'hébergement est complètement saturé. Alors, on essaie, nous, d'apporter des réponses concrètes avec nos actions, grâce à cette générosité, avec les associations, sur le terrain, en milieu rural, dans les grandes villes. Mais il faudra aussi, et c'est un de nos rôles aussi, que les politiques publiques changent. C'est-à-dire qu'il y ait plus de solidarité qui s'exprime dans ce pays et qu'il y ait plus de main tendue à l'égard de ceux qui souffrent, qui ont vécu des choses difficiles. C'est ces deux combats, agir directement nous-mêmes et puis essayer de faire changer les politiques publiques dans notre pays, au niveau local comme au niveau national.
Christophe Robert, la fin de la trêve hivernale et la reprise des expulsions locatives sont prévues pour le 31 mars. C'est un moment de combat hein, chaque année pour votre fondation.
Oui, parce que vous savez... qu'est-ce qui se passe en fait ? Et nous avons par exemple une plateforme où on conseille les personnes qui sont menacées d'expulsion, et d'ailleurs les propriétaires qui sont confrontés à des locataires en situation de fragilité. Sur ce front des expulsions locatives, on a atteint un nouveau record l'année dernière, à peu près 40 000 personnes qui ont été expulsées, une vingtaine de milliers de ménages, par les forces de l'ordre. Mais c'est beaucoup plus, parce que beaucoup n'attendent pas que la police vienne mettre les meubles en bas de la cage d'escalier, change la serrure et toute la famille dehors. C'est un fléau. Et on sait qu'on peut les éviter, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui à un moment ont un coup dur parce qu'ils perdent leur emploi ou parce que leurs ressources baissent. Et en fait, par exemple, ils connaissent pas qu'il y a des aides qui peuvent leur être apportées d'organisations comme nous, ou du département, ou de l'État. Donc il faudrait des politiques beaucoup plus préventives, vous voyez ce que je veux dire, pour éviter ce basculement avec cette perte de logement qui est très difficile. Tout le monde a besoin d'un chez-soi pour se reposer, pour vivre, pour sa santé, pour la vie familiale. Et donc, nous appelons vraiment à un moment où on sait que, par exemple, les charges ont beaucoup augmenté avec l'inflation et où beaucoup de gens n'arrivent plus à payer leurs charges, il y a des risques d'augmentation très, très importants des expulsions. Et donc, on dit, allons plutôt devant de ces personnes, aidons-les à ouvrir des droits. Et si jamais ça ne passe plus parce que ils ont perdu, par exemple, leur boulot, eh bien, essayons de les accompagner pour trouver une autre solution, par exemple, dans le logement social. Donc, changeons de politique. Ça ne peut pas être juste chaque année compter toujours plus de personnes qui ont été évacuées par les forces de l'ordre. Ce serait un grand échec pour notre pays. Et c'est un appel que nous faisons aux politiques publiques aussi aujourd'hui.
Voilà, un nouveau nom, donc, à retenir. La Fondation pour le logement des défavorisés. Merci beaucoup, Christophe Robert.
Merci à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
Nous voici à Saint-Antonin-Nobleval, commune rurale du Tarn-et-Garonne, dans le nord-est du département, 1900 habitants et une librairie indépendante, le Tracteur Savant. On passe un coup de fil à la libraire. Bonjour Valérie Poujon.
Bonjour Dorothée.
Alors la particularité de votre librairie, Valérie, c'est qu'elle est gérée au sein d'une société coopérative qui regroupe plein de métiers différents, de la menuiserie, de la photographie, de la formation et j'en passe. Comment ça marche concrètement ?
En fait, c'est un statut un peu à part. On fait partie donc de la SCOP Ozon. Et en fait, ce qui nous permet alors d'avoir un cadre juridique pour la librairie, d'avoir une équipe d'appui qui fait notre comptabilité, qui gère les feuilles de paie, les contrats pour les intérimaires. Et on a un vrai soutien aussi pour tout ce qui est problème quotidien, questionnement. Donc c'est vraiment hyper confortable.
Donc c'est une manière de se sentir entouré.
C'est ça, exactement. Moi je pense que vraiment on gagne parce que chacun amène son expérience pour des périodes où c'est plus difficile. On peut se retrouver à réfléchir sur comment on peut faire évoluer chacun son activité. Donc c'est vraiment porteur.
Tous et toutes travaillent dans la même commune que vous, à Saint-Antonin-Nobleval.
Non, pas toutes dans la même commune, mais en fait, c'est quand même c'est le Lot, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Voilà, c'est les trois départements.
Ouais. L'ameublement de votre librairie aussi fait sa singularité, je crois, Valérie.
C'est ça, en fait, on n'a pas de meubles neufs, donc on récupère dans les recycleries. On a eu des dons aussi de lecteurs qui n'utilisaient plus leurs meubles. On a, bah, pour le rayon polar, on a récupéré une vieille horloge. Voilà, c'est assez singulier. On a une caisse, une vieille caisse des années 50.
Elle marche ? Voilà.
Elle marche. Vous voulez entendre le bruit ?
Ah bah, s'il vous plaît.
Allez, je me mets à côté de la caisse. Voilà, donc ça aussi, ça fait une singularité.
Mais vous faites aussi le paiement sans contact.
On fait le paiement sans contact, on essaye de le s'en passer, mais c'est difficile.
Saint-Antonin est un village médiéval hein, au cœur des gorges de l'Aveyron. Il accueille des touristes. Est-ce que vous diriez que c'est aussi la saison estivale qui assure la pérennité de la boutique au-delà de ce statut coopératif ?
Alors, la librairie, elle a 10 ans. Et le village, il évolue. Bon, je pense que c'est peut-être, ça paraît une banalité, mais là, on sent que le village, il devient que touristique. Oui. Donc, en fait, la vie, c'est 15 juillet, 15 août, hein, pour un peu schématiser. Et là, ça devient de plus en plus difficile de rester ouvert toute l'année, parce que ça, c'était un choix. On a toujours été ouvert toute l'année, tous les jours, sauf le lundi. Et là, on est, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de fréquentation de village en dehors de la période touristique. Donc le village, voilà, on passe de devenir vraiment un village musée.
Ça vous désole, ouais. On l'entend.
Ah oui, nous, on est, oui, ouais, on est un peu triste de ça. Comme il n'y a pas de fréquentation, il y a très peu de commerces ouverts, donc c'est un peu un engrenage en fait. Les gens viennent plus parce que il y a nous, ils sont super contents de nous voir parce qu'on est quand même une référence pour le village. Il y a une épicerie, il y a le bistrot, voilà, et la coiffeuse et c'est tout. Donc en fait, ça draine pas beaucoup de personnes.
C'est presque une attitude militante finalement que de rester ouvert toute l'année pour vous.
Ben oui, oui, si on le revendique, et parce qu'on est un lieu de vie aussi. Hein. Il y a des gens qui passent nous dire bonjour tous les jours, parce que il y a de la lumière, on est vachement sympa, on est, le lieu il est accueillant, voilà, on connaît, voilà, on sympathise avec les gens et ça c'est hyper important.
Librairie indépendante, disais-je en introduction, vous y tenez hein, à ce statut ?
Ah oui, on y tient et puis on essaye aussi de faire passer le message qu'il faut commander des livres chez nous. Mmh. Il faut, voilà, nous on lit beaucoup pour conseiller, on a des coups de cœur, des fois on lit en pensant à telle personne, et ben ça va lui plaire, je vais pouvoir lui conseiller. Voilà, on essaye aussi de faire passer le message que le prix du livre il est unique et ça on se rend compte que pas grand monde, moi ça me surprend mais. C'est pas grave, on va le dire, le prix du livre il est unique, que vous le commandiez n'importe où, c'est le même prix. À part que vous aurez le plaisir d'attendre, parce que nous on n'a pas des délais qui sont compétitifs, mais ça fait partie du plaisir de la lecture. On attend, on va chercher, on fait des super paquets cadeaux. On fait presque pour chaque personne à façon.
Parlons bouquins, s'il vous plaît, Valérie. Quel est votre coup de cœur de libraire en ce moment ?
Alors, je ne sais pas si ça va être original, mais on a craqué toutes les deux pour La Petite Bonne de Bérénice Pichat, qui est vraiment une écriture extraordinaire. C'est la rencontre entre une gueule cassée et une petite bonne. Et ça, c'est une écriture en vers libre. C'est très, très beau. C'est bouleversant. C'est vraiment... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un texte aussi beau. Donc vraiment, lisez-le.
La Petite Bonne, Bérénice Pichat, édition Les Avrils, c'est le coup de cœur des deux libraires en l'occurrence ?
Les deux libraires, oui. On a choisi ça et vraiment on est unanime et voilà, on le porte.
Vous êtes optimiste pour la durée de vie de cette boutique essentielle, le Tracteur Savant ?
On est optimiste, on se bat pour. Là, on est en difficulté, voilà, on fait en sorte de chercher des moyens de communiquer plus, de se faire connaître. Mais on sait aussi que les gens, y a une crise économique, hein, c'est sûr. On peut pas la nier. On sait que c'est galère pour tout le monde, mais on y croit. On espère tenir encore 10 ou 20 ans, voilà. Mais on est assez triste parce qu'on entend des fermetures de librairies, voilà. Donc ça aussi, on se dit c'est quel dommage. On va tenir.
Longue vie au Tracteur Savant. C'est donc à Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup, Valérie Poujon.
Merci beaucoup.
Et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.